Il y a des mots qui m'intéressent et il y a des mots qui m'intéressent pas. Et métaverse, dans un jardin, vous vous allongez, vous regardez le parcours de fourmis, par exemple, le réel est tellement plus beau.
Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous écoutez dans votre voiture, dans votre salon, sur votre smartphone et même, pour les plus audacieux d'entre vous, dans le métaverse. Chaque après-midi, vous le savez, dans Zoom Zoom Zen, on prend un mot dans l'air du temps et on le secoue jusqu'à ce qu'on ait parfaitement compris sa signification. Aujourd'hui, il y a du boulot, mais ça va être passionnant, mais il y a du boulot. J'en veux pour preuve le vide intersidéral que j'ai lu dans les yeux de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière quand j'ai tenté de lui expliquer tout à l'heure le principe même du métaverse. Il venait de se servir son habituel petit verre de chartreuse jaune d'après-déjeuner, car, je le cite, ça permet d'y voir plus clair. Et alors que je tentais de lui décrire à grands traits ce qu'était ce monde virtuel, il m'a coupé net avec cette question en forme d'argument massue. Mais Mathieu, est-ce qu'au moins il y aura des charcuteries dans le métaverse? Sinon, moi j'y vais pas. Y a-t-il des charcuteries dans le métaverse? En quoi cet univers virtuel se distingue-t-il des précédentes tentatives de monde numérique parallèle? Faut-il s'attendre à une révolution qui va bouleverser nos modes de vie, comme le croit Mark Zuckerberg? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Afin de m'épauler dans cet exercice périlleux qui consiste à décrypter notre époque, j'ai demandé à des jeunes journalistes à la pointe des innovations technologiques et des nouvelles tendances. À la place, on m'a refilé Manon Mariani et Quentin Lhuy. Bonjour
sympa.
Les amis.
Sympa, ouais. Bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Je suis désolé, Manon, vous êtes censé être l'égérie TikTok de France Inter pour cibler les 15-25.
C'est vrai.
Et hier, qu'est-ce que vous nous avez annoncé? Tiens, je vais me racheter un plaid.
Ah bah oui, mais...
Pas une Tesla plaid, 1000 chevaux, 600 km d'autonomie, non. Un plaid en pilou-pilou, comme chez ma mamie Fernande. Et vous avez même ajouté à l'image d'Épinal de la loose célibataire. Oh oui, comme ça, je vais me faire une semaine film de Noël avec Love Actually.
Oh là là,
Alors oui, Manon, permettez-moi de dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Heureusement, vous gardez malgré tout un œil sur les réseaux sociaux.
Oui, j'ai toujours pas trouvé de plaid, hein, d'ailleurs. Si vous avez des adresses, je prends. Alors aujourd'hui, très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de plus en plus importante des réseaux sociaux pour lutter pour la protection des animaux. Je vous explique tout ça dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Manon, je pose la question. Un garçon dont les yeux s'illuminent et qui se lève pour se déhancher quand quelqu'un se met à fredonner la Java de Broadway de Sardou dans l'open space, peut-il être considéré comme quelqu'un qui vit avec son temps? Non, mais on l'aime. Non, ne bougez pas, on l'aime quand même. Quentin, chaque jour, vous allez à la rencontre des passants pour leur demander ce que leur inspire notre thème du jour. Et je suis sûr que le métaverse a dû beaucoup les inspirer.
Ah, vivement la prochaine tournée de Michel, qui, oui, et c'est une exclusivité France Inter, se passera aussi dans le métaverse.
C'est vrai?
Absolument pas. Michel va d'abord s'occuper de ses amis les cyclistes dans le vrai monde, parce que le vrai monde, il va chez le coiffeur. Il ne peut pas être partout. Bon, le métaverse, ça vous donne un coup de vieux, ça vous fascine, ouais. Ça vous effraie. On est parti vous demander directement ça dans la rue.
Vers 16h30 pour le quiz, on restera sur la thématique des mondes virtuels, même si l'humiliation pour le perdant sera, elle, bien réelle. En fin d'émission, c'est Tania Dutel qui nous rejoindra pour nous raconter ses péripéties dans le métaverse. Mais d'abord, il est temps de répondre à la première question de cette émission. C'est quoi, en vrai, le métaverse? Bonjour Maud Clavier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, le grand public ne vous connaît pas encore forcément, mais les experts du secteur vous qualifient de pionnière de l'industrie de la réalité virtuelle et du métaverse. Vous êtes actuellement directrice générale de la société Vroom, un studio français spécialisé dans l'organisation d'événements sociaux et de spectacles en réalité virtuelle. Vous avez aussi été coordinatrice du concert de Jean-Michel Jarre, Welcome to the Other Side, un concert qui s'est déroulé en 2020 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, recréé en images de synthèse. On va en parler. Vous incarnez parfaitement la journée spéciale Nouvelle Voix de France Inter aujourd'hui, les personnes qu'on n'entend pas encore beaucoup, mais qui vont faire parler d'elles. Alors Maud, on va commencer très simple, pour ceux qui comprennent rien au métavers ou qui en ont peur, comment vous leur présenteriez la chose? C'est quoi le métavers en quelques mots?
Alors bon, je vais essayer de faire simple, mais c'est pas évident. Parce que la notion a été inventée dans un livre de science-fiction en 1992. Et comme beaucoup de notions de science-fiction, ça déterminait quelque chose de complètement fou. C'était une extension de la réalité. On peut s'avatariser dans des mondes 3D illimités, voyager comme dans la vraie vie, payer, s'aimer, faire tout ce qu'on veut et avoir plein de sensations. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là encore.
On n'en est pas là et on va voir toute la progression. Mais il y a eu des progrès, c'est pour
évidemment.
Ça que vous êtes là aujourd'hui. On avance. Face à vous, Maud. Peut-on espérer comprendre le métaverse quand on vient tout juste de se familiariser enfin avec Windows 95? Bonjour Cyril Lacarrière.
C'est un garçon qui ne sait pas créer un Google Doc, qui a une adresse mail Caramel qui la ramène.
Non, pas du tout.
Mathieu, c'est sidérant.
Une adresse
ce que vous
Hotmail. Par c'est ailleurs, sidérant. J'ai des gens qui s'occupent de créer des Google Docs. J'ai pas besoin d'en créer moi-même.
J'ai des gens.
La bonne nouvelle.
Les gens, c'est son équipe. C'est nous, quoi.
La bonne nouvelle. Mais vous êtes payé pour ça, Cyril. Vous êtes rédacteur en chef de cette émission. Et là, aujourd'hui, vous êtes plongé dans le métaverse. Vous avez fait un truc contre nature. Vous avez bossé pour nous raconter l'origine de ce mot. D'où ça sort, le métaverse?
C'était, vous avez commencé à l'évoquer, c'était il y a 30 ans tout juste que le terme métaverse fait son apparition. On le doit à un auteur d'américain de science-fiction, Neil Stephenson. Et déjà, à l'époque, tout est là. Les casques, le monde virtuel et nos avatars. À l'époque, en fait, seul manque une personne, Mark Zuckerberg, mais on s'en passera. Une petite dizaine d'années plus tard, la première expérience du métaverse apparaît déjà, le jeu Second Life, une création de l'éditeur américain Linden Lab. Si Second Life ne deviendra jamais réellement un jeu grand public, il est néanmoins pris d'assaut par les communautés de joueurs, et 20 ans plus tard, ce jeu reste une référence du genre. Les experts feront d'ailleurs un lien entre le jeu Second Life et le roman de Neil Stephenson, Snow Crash, sorti en 1992 et publié en français sous le titre Le Samouraï Virtuel. Tout le monde l'a sans doute oublié, mais la France a tenté de s'immiscer dans le business du métaverse en 1997. Canal+ Multimédia lance le deuxième monde, pas vraiment un jeu, mais plutôt un univers immersif où les participants se retrouvent dans un Paris virtuellement reconstitué. Mais ce deuxième monde fait long feu et disparaît un an avant le lancement de Second Life. Au cinéma, le métaverse et les univers virtuels ont beaucoup inspiré les cinéastes. Évidemment, tout le monde a en tête les films Matrix des frères Wachowski, devenus depuis les sœurs Wachowski. Et puis, sans doute, le film le plus abouti à ce stade pour parler métaverse, Ready Player One, de Steven Spielberg, sorti en 2018, où le héros vit dans un monde numérique parallèle grâce à un casque numérique. Un film incroyable et qui donne, lui, effectivement, très envie d'essayer ce métaverse. Car le métaverse, voyez-vous, c'est le lieu de tous les possibles, le lieu de toutes les rencontres, le lieu de la gentillesse. Le métaverse, c'est le monde virtuel où Mathieu Noël répond enfin, ne ghoste pas, Jocelyn J, et finit par lui répondre à tous ses gentils messages.
Quelle histoire, ça aussi.
Une histoire qui n'intéresse pas nos auditeurs, mais merci quand même, Cyril Lacarrière. Maud Clavier, il a osé, il ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Et peut-être que je parlerai bientôt de ses prochaines vacances de Noël au soleil, en donnant la destination exacte et l'empreinte carbone. Maud Clavier. Le terme métaverse s'est énormément popularisé lorsque Mark Zuckerberg a annoncé son intention de recentrer les activités de son groupe sur ce projet, et même de rebaptiser Facebook, ça on l'a tous vu, en Meta. Zuckerberg, est-ce que c'est finalement une bonne ou une mauvaise pub pour le métaverse, vous qui bossez dedans?
Alors c'est les deux, on a un rapport torturé avec Mark Zuckerberg, parce que d'un côté il pousse notre industrie plus loin et il y donne un coup de projecteur, mais en même temps il essaie de voler le projecteur pour lui tout seul. Et ça c'est le problème.
Et surtout l'autre problème, quand on voit les choses de loin comme moi, c'est quand on voit les images de son métaverse avec son avatar tout pourri, avec des graphismes qu'on croirait sortir d'un jeu vidéo des années 90, vraiment. Ça donne pas très envie d'aller dans ce métaverse. C'est pas un lieu qui fait rêver, on voit pas en quoi c'est particulièrement moderne. Ils ont un temps de retard en fait ce méta, j'arrive pas à comprendre comment avec de tels moyens ils peuvent être si à la masse.
En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, mais Meta a pris une stratégie où ils ont voulu que ce soit les utilisateurs eux-mêmes qui créent des mondes virtuels.
Ah oui, c'est peut-être l'erreur.
Donc, demander à des personnes qui viennent de se familiariser avec Windows 98 de créer un monde virtuel, et forcément, ça crée des mondes pas extrêmement beaux. Et c'est pour ça que nous, par exemple, chez Vroom, on est professionnels de création. On crée la 3D,
l'environnement,
on crée des avatars, on crée des interactions, des lumières, des jeux, des mini-jeux dans l'expérience pour que ce soit fun. Et du coup, graphiquement, on n'est pas à un niveau de jeu triple A parce que la technologie ne le permet pas.
C'est quoi triple A?
Comment?
Ça veut dire quoi triple A?
Triple A, c'est un peu comment on qualifie les jeux vidéo de très haute qualité qui sortent sur PlayStation 5, etc. Red Dead Redemption.
Ça, je connais.
Voilà,
GTA 6, tout ça, c'est les triple 5.
Ouais.
Triple A. C'est déjà pas mal. Triple 5, ça sera l'étape d'après. Donc, moi, je vais dans le futur. Un mot encore de la définition. Vous, Maud Clivet, vous dites qu'en fait, pour bien expliquer, le métaverse n'existe tout simplement pas encore, car vous pensez qu'il est forcément lié à l'interconnexion entre les différentes plateformes qui existent. C'est comme si. C'est-à-dire que chacun fait un site Internet, c'est pas Internet. Internet, c'est l'agrégation et l'interconnexion de tous ces sites. C'est pareil pour le métaverse.
C'est ça, c'est exactement ça. En fait, le mot métaverse définit l'Internet du futur et aujourd'hui, on utilise le mot métaverse pour définir les sites eux-mêmes. Donc, c'est pas une grave erreur. Ça arrive souvent que des termes deviennent grand public.
C'est un abus de langage, en fait.
C'est un abus de langage.
Pour l'instant.
Mais on l'utilise quand même pour au moins essayer de faire comprendre les choses. Donc, si je devais définir le métaverse aujourd'hui pour l'usage courant, ce serait des plateformes sociales dans lesquelles on peut se rendre dans des univers 3D sous forme d'avatar. Et vivent des événements qui ne sont pas du jeu vidéo,
qui sont
des concerts, d'autres choses sociaux. Voilà.
Alors, Maud Clavier, il y a longtemps, dans une galaxie très très lointaine, un groupe composait déjà sans le savoir la bande-son du métavers. Si vous aimez les pionniers, si vous aimez l'électro, et si vous aimez les Allemands, voici les pionniers allemands de l'électro. Kraftwerk, oui, The Model sur Inter. Oui. Manon Mariani, qui adore les pionniers allemands et surtout qui adore l'électro, adore Kraftwerk, c'était The Model sur Inter. Et si on partait en goguette tous ensemble là dans le métaverse ? Mais le métaverse est-il avant ou après Senlis ? Moi je n'ai pas très bien compris. Si comment vous avez un peu de mal à comprendre ce que recouvre cette notion, ça tombe bien. Cet après-midi, on vous explique le métaverse avec quelqu'un qui contribue à le façonner. Maud Clavier, directrice du studio Vroom. Alors le métaverse, disent certains, c'est la fin de la frontière entre le virtuel et la réalité. Comment on peut concrètement s'affranchir de cette frontière, c'est pas forcément facile à comprendre. Il y avait dans ma jeunesse, et Cyril en a parlé, un truc qu'on appelait Second Life. Ce que j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est en quoi le métaverse est foncièrement différent de Second Life.
C'est l'accès via la technologie immersive. Second Life, ça se passe sur un écran plat.
Voilà, on n'est pas dedans, quoi.
On n'est pas dedans. Donc ce qui change, c'est la perception du volume. En vrai, je vous perçois avec un volume. Donc avoir un outil qui vous permet de percevoir le volume, pour moi, c'est ça qui ajoute la notion de métaverse. Donc c'est une espèce de triptyque entre les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'accès via technologie immersive. C'est comme ça que j'en ferai la définition la plus simple.
Et donc, d'un point de vue technique, on est obligé d'avoir un casque de réalité virtuelle pour se balader dans le métaverse.
Dans sa version, disons, la plus immersive, oui. Après, quasiment toutes les plateformes de métaverse qui offrent un service en réalité virtuelle l'offrent aussi sur un écran.
D'accord.
Donc on peut s'y balader comme dans un jeu vidéo. On peut aussi avoir des retransmissions vidéo avec plusieurs caméras virtuelles pour les gens qui le regarderaient à la télé ou ailleurs. Mmh. Sans être immersif, donc il y a plusieurs niveaux, mais le niveau le plus immersif, c'est celui avec un casque.
Alors, j'en parlais, Maud Clavier, en début d'émission pour vous présenter. Racontez-nous comment on organise un concert virtuel au sein de Notre-Dame, par ailleurs encore en plein chantier de rénovation. Comment ça se passe techniquement ? Qu'est-ce que ça demande aux gens qui veulent le regarder ? Et c'est quoi la différence avec un concert en vrai ?
Alors, beaucoup de questions dans une question. On va essayer d'abord de passer à la conception. Donc, il y a la conception, évidemment, de Notre-Dame en 3D sur plan et d'essayer de la simplifier un maximum parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très lourd de faire des expériences sociales, immersives, etc. Il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui. Donc, c'est optimiser le modèle de Notre-Dame, faire l'avatar de Jean-Michel Jarre et l'enregistrer avec de la motion capture. Donc, c'est une combinaison qui capte ses mouvements qui sont en direct retranscrits sur son avatar, créer la scène, créer le public, créer des mini-jeux pour que ce soit intéressant. Des effets de mapping dans la cathédrale à l'intérieur. Le mapping vidéo, c'est de la projection vidéo sur les colonnes, sur les formes qui sont à l'intérieur de la cathédrale. Créer une scénographie lumineuse aussi, qu'on a fait avec le vrai scénographe, le light de Jean-Michel Jarre, qui a travaillé dans la réalité virtuelle pour ça. Et enfin, ce qui s'ajoute par rapport à un concert dans la vraie Notre-Dame, c'est des effets de formes 3D qui vous arrivaient dessus. Donc on a fait beaucoup de formes 3D à chaque chanson, des ambiances lumineuses qui changeaient, mais aussi des formes dans le ciel qui vous arrivent dessus comme ça.
Je crois savoir que Jean-Michel Jarre, au cours de sa carrière, a amassé pas mal d'argent. Est-ce que ça coûte très cher de faire ça ? Est-ce que c'est à la portée de tous les artistes de faire un truc si énorme ?
Alors, au moment où on a créé ce spectacle, ça avait un certain coût, mais moins cher que des spectacles live de Jean-Michel Jarre, l'air de rien. Ouais. Le coût pour la partie virtuelle totale de ce show, c'était 200 000 euros, ce qui était un coût. Évidemment,
un coût important, mais qui se compare ou qui est peut-être moindre qu'un show
que
en vrai.
Moins que certaines séries Netflix, moins que certains films.
S'il y a des concerts dans le métaverse, alors évidemment, c'est formidable pour l'accessibilité, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de jauge, on peut être autant qu'on veut assister en virtuel dans ce...
En fait, la jauge, elle est par forme de multiplication.
Ah, d'accord.
À partir de 50 personnes dans le monde virtuel, le monde virtuel se duplique et on est de nouveau 50 personnes.
C'est
donc
génial.
On va pas être 100 000 personnes les unes à côté des autres.
Il y a 100 000 Notre-Dame et 3
millions avec 50 personnes dedans à chaque fois.
Incroyable. Et alors, ça, c'est formidable, mais le côté négatif, c'est que est-ce que si ça se développe, ces concerts dans le métaverse, si on va voir nos artistes préférés dans le métaverse, est-ce qu'on risque de pas aller les voir en vrai finalement ? Parce qu'on a une expérience tellement incroyable, finalement, pourquoi payer 50 euros pour aller les voir en vrai ?
Je pense que les deux sensations sont très différentes pour avoir vécu les deux. C'est que dans la vraie vie, il y a quand même la sensation de présence qui est tactile. On sent le public, on sent l'artiste, on voit son énergie. Donc certes, l'environnement est moins spectaculaire, mais la sensation réelle, elle est extrêmement forte.
Ça sera un plus et ça ne va pas remplacer.
Ça ne va pas remplacer, ce sera un plus, exactement.
Manon Mariani.
Alors, autant pour les concerts, certains y voient une vraie révolution, mais par exemple, pour le cinéma, qu'est-ce que ça va changer ? Le CNC, ils ont investi là 3 millions d'euros pour créer des œuvres plus immersives. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, concrètement dans le métaverse avec le ciné ?
En fait, c'est un peu une transformation. C'est pas du cinéma dans le métavers, c'est des nouvelles œuvres qui se passent à 360. C'est un peu des films d'animation en réalité virtuelle ou des films avec de l'image filmée en 360. Donc ça, c'est encore autre chose que vraiment la réalité virtuelle métaverse multijoueur. C'est des expériences où on aura voilà, des petits personnages, des histoires, c'est des contenus un peu plus poétiques en réalité virtuelle et c'est pas mal pour contrebalancer tous les jeux qui se passent.
Donc un Martin Scorsese, par exemple, va pas réaliser un film dans le métaverse.
Il pourrait, mais ce serait complexe.
Okay.
C'est surtout que je trouve la paternité entre le cinéma et la réalité virtuelle un peu absurde me concernant, parce que le cinéma, ça se fait sur un écran 2D, c'est très cut, il y a des codes extrêmement forts, alors que le pont entre les arts vivants, le théâtre, les arts de la scène,
plus logique, est plus logique, part, avec le métaverse.
Parce qu'il y a du volume, exactement.
Quentin, lui.
Vous disiez tout à l'heure que c'était un réseau social, mais sous forme de jeu vidéo. Je pense à GTA. Mathieu, je sais que vous êtes amateur de GTA.
C'est
GTA sans mission. On se balade dans la rue et on peut comparer à ça ?
On peut comparer à ça complètement, GTA sans mission, avec encore une fois l'apport de la technologie immersive pour être dedans. Donc c'est comme si par un casque on était dans GTA 3 sans mission.
Avec des armes et autres.
Calmez-vous quand même. C'est pas ce qui me plaît, moi. Moi ce qui me plaît c'est de voler des avions et de faire des tours dans le ciel dans GTA. Moi je ne suis pas violent comme vous.
Moi je préfère les tanks. J'aime voler les tanks. Et écraser les gens, désolé.
On en est où aujourd'hui dans l'état de progression ? On a vu que c'était un work in progress, le métaverse. On est loin d'être encore dans cet univers parfait. Pardon. Je change ma question. J'en ai une autre avant. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas le métaverse et qui l'imaginent, on met le casque de réalité virtuelle, on entre dans un de ces lieux du métaverse. Est-ce que notre décor, c'est un décor de film d'animation, c'est-à-dire c'est comme du dessin animé, comme du jeu vidéo, ou est-ce que c'est comme dans un film en fait ? Enfin, est-ce que ça ressemble à la réalité ?
Alors, ça ne ressemble pas encore à la réalité pour des raisons de poids graphique. Par contre, ça ressemblerait plus à du jeu vidéo. Des fois, ça peut ressembler à du cartoon ou du film d'animation, mais ça, c'est une patte artistique qui est choisie.
D'accord.
Mais en général, voilà, si on fait de la 3D, on va dire relativement basique, ça ressemble plutôt à du jeu vidéo.
Le prix de l'immobilier dans le métaverse seront-ils plus intéressants qu'à Montreuil ? Voilà la seule question. La seule question qui obsède Quentin, lui, hanté depuis quelques semaines par des rêves de primo-excédents. Promis, Quentin, Maud vous répondra hors antenne. Pour l'heure, racontez-nous plutôt ce que les passants que vous avez croisés pensent du métaverse à Montreuil, justement. Quel hasard ! Quel hasard ! Et vous étiez en train de visiter des appartements.
Bah autant joindre l'utile à l'imposable. On est d'accord.
Génial.
Donc, bravo, oui, bravo. À Montreuil, dans le 93, à l'est de Paris, une ville peuplée de 110 000 habitants, les Montreuillois, qui ont tous une particularité, c'est qu'au premier contact, ils disent tous « Ah non, mais Montreuil, c'est clairement un village aux portes de Paris. Hein. Acheter, c'est l'adopter, quoi. » Bon, heureusement, il y a une grande place, comme dans chaque village, et qui s'appelle la place Jean Jaurès, où je me suis posé pour vous faire parler du métaverse. On commence avec cette dame qui reconnaît mon micro rouge. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Marielle.
Marielle, ça vous fait rire de me voir avec le micro France Inter ?
Bah ouais, à Montreuil, c'est rigolo de voir la radio qui vient jusqu'à nous. Trop cool. J'adore France Inter.
Ouais, elle lit la pancarte Zoom Zoom Zen.
Le métaverse, j'ai l'impression de prendre un coup de vieux quand je dis ça parce que je me dis que c'est l'avenir et que ça me fait peur. Ah, ça me fait penser à l'épisode 1 de Black Mirror, ouais, de la dernière saison. Ah, c'est l'histoire de deux hommes qui ont une relation dans une réalité virtuelle alors qu'ils ont des vies autres et donc ils se posent des questions sur leur sexualité étant donné qu'ils ont une relation.
Vous voyez avoir un amant ou une amante dans le métaverse, vous ?
Ah là 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 là, mon conjoint écoute France Inter.
Quentin !
Non, je rigole.
Ça veut pas dire non. On embrasse le conjoint de Marielle. Merci à lui de sa fidélité. J'arrête Patrick, 70 ans, grand-père de 6 petits-enfants. Alors lui, il écarquille les yeux quand je commence à lui parler du métaverse, de casque à réalité virtuelle, de voyage en restant dans son canapé.
Il y a tellement de choses à voir. Lorsque vous vous allongez dans un jardin, vous vous allongez, vous regardez le parcours de fourmis, par exemple. Là, c'est vraiment génial. Pourquoi aller dans le virtuel alors qu'on a des choses magnifiques? Quand j'ouvre ma fenêtre, moi, je vois des oiseaux dans les branches d'arbres. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un casque, moi? Le réel est tellement plus beau que ce que vous pouvez me parler avec un casque, là. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce casque?
Point immobilier important pour vous, il y a des oiseaux qui chantent dans les branches des arbres à Montreuil.
Bon, arrêtons. Il paraît que c'est la journée des nouvelles voix sur Inter. Écoutons ces deux qui arrivent la main dans la main avec leur maman juste derrière. Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms?
Esther.
Joséphine.
Vous avez quel âge?
6 ans et demi. 6 ans.
Et qu'est-ce que vous faites là?
Bah, on est allé voir un cinéma.
Ok.
On est allé regarder Wallace et Gromit.
Alors, à 6 ans et 6 ans et demi, on apprend tout juste à lire, donc on va essayer
Le méta. Métavers.
Ils lèvent leur tête, l'air candide. Je leur parle d'une sorte d'immense jeu vidéo, de monde parallèle, virtuel, et un enfant, ça comprend vite.
Moi, ça a l'air bien.
J'aimerais bien essayer le métavers. Mm. Et toi?
Moi aussi.
Pourquoi?
Bah, c'est que t'arrives dans un nouveau monde et c'est bien, ça.
Moi, j'aimerais bien découvrir un nouveau monde.
Vous en pensez quoi, madame? Vous êtes prêts à laisser partir dans le métavers?
Non.
Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tiens, à Montreuil, ils ont déjà mis un immense sapin devant la mairie. Et autour de ce sapin, il y a un socle en bois qui sert de banc à Mélouane et ses potes. Ils ont 15 ans de moyenne d'âge. Je leur tends la pancarte Zoom Zoom Zen.
Le métaverse. Ouais. C'est bizarre un peu, hein. Ça fait peur. J'ai entendu, il y a des casques virtuels à la fin, je sais pas quoi, à la fin du jeu tu peux mourir. Non, ça fait peur, ça fait peur.
C'est quoi le métavers?
Ce truc là, même Facebook ils veulent faire là.
Ça va vraiment exister en mode tout le monde va faire ça et on sera tous dans le monde virtuel.
C'est ça le projet.
Et comment
on... Mais ils ont pété un câble.
Comment on vit après? Comment on mange tout ça?
C'est vrai ça? Comment on va faire pour manger? Une bonne question. Tiens, voici ce jeune couple en plein déménagement. Ils posent les cartons 2 minutes. Clémence et Florian sourient lorsqu'ils découvrent...
Alors là, on en a parlé du métaverse. Hein. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent dedans? Parce que sinon, on va se retrouver en retard par rapport à tout le monde.
De ouf, et surtout, ouais, c'est ça, c'est investir dans le métaverse.
Quand vous dites investir dans le métaverse, vous pensez à quoi?
Acheter un terrain.
Attendez, vous avez failli acheter un terrain dans le métaverse?
Non, c'est poser la question, est-ce qu'on met de l'argent dans un terrain dans le métaverse, c'est plus intelligent que mettre de l'argent dans un vrai terrain dans la réalité?
Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à mettre des billes dans le métaverse, à acheter justement des parcelles virtuelles.
Oui, puis on est des gamers un peu, du coup on voyait un peu ça Minecraft, on va construire notre maison et puis aller dedans, faire ce qu'on veut quoi. Minecraft c'est très libre.
Investir dans une parcelle virtuelle pour vivre comme dans Minecraft. Voilà comment en 2 secondes je me suis retrouvé sur ce sujet, mais alors complètement à la rue.
Maude Clavier, directrice générale de Vroom, est avec nous pour nous expliquer le métaverse. On vient d'entendre des réactions dans la rue au micro du Jacques Martin 2.0. Quentin, lui, alors ça passe par le coup de vieux, l'infidélité virtuelle. Il y a aussi Bernard qui hallucine en comparant son jardin et ses fourmis à cette histoire de casque virtuel. Vous trouvez que ça reflète bien les réactions de la société face à l'arrivée du métaverse?
Oui, clairement, c'est assez divers et réaliste. Alors, je pourrais répondre à ces petites choses, mais je ne sais pas si c'est le but.
Alors, répondez déjà à la question la plus importante qu'on se pose tous. Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier sur le métaverse?
Mathieu, il a les yeux confettis.
Ma réponse est non.
Ah. Pour quelle raison?
Parce que je voudrais faire une distinction entre les acteurs du métaverse et ceux du Web3.
Ah, faites-la.
Le Web3, c'est l'Internet, on va dire, sur un écran plat. Mm-hmm. C'est du jeu vidéo, mais c'est spéculatif parce qu'il y a un aspect monétaire. Il y a ce qu'on appelle la crypto-monnaie, basée sur de la blockchain. Donc, on peut déjà acheter des choses et vendre sur ces plateformes, mais elles ne sont pas immersives par casque virtuel. Mais
vous allez me dire que le métaverse, il n'y a pas de spéculation dans le métaverse?
Pas encore.
Mais les terrains qu'on achète dans le métaverse, c'est bien de la spéculation?
C'est pas dans le métaverse, c'est dans le Web3. C'est la confusion. Donc, par exemple, un terrain qu'on achète dans The Sandbox, qui est une plateforme française, faite de pixels, pour moi, c'est une aberration en fait, de vendre des terrains virtuels. Tout simplement. Je trouve que c'est une reproduction de schéma qui n'a aucun sens. Et du coup, pour moi, ce qui fait sens, personnellement, c'est de vendre des spectacles. C'est de vendre des asset stores. C'est de vendre des choses qui sont utiles et qui ont des vrais usages.
Voilà, des usages et qui sont nouvelles, qui offrent une plus-value. Parce
c'est comme je disais, comme on le disait tout à l'heure, sur Facebook Horizon, les mondes, ils sont moches. On est d'accord.
Ah oui,
ils sont créés par le grand public. Donc, quelqu'un qui achète son terrain dans The Sandbox, qu'est-ce qu'il en fait après ? Il sait pas. Et même les marques qui achètent m'appellent, font « Oh, Maud, on a acheté un terrain dans The Sandbox,
décorez-le.
On en fait quoi ?» Décorez-le. Bah, voilà.
Je suis
décoratrice intérieure sur The Sandbox, c'est super. Quentin, je veux bien, mais...
Quentin, lui.
Il y a ses ados, Méloane et ses copains de 15 ans, qui soulèvent une question rigolote, mais quand même plutôt juste autour du repas. Si on vit, on travaille, on joue dans le métaverse, est-ce qu'on va pas finir par être lié à des machines de plus en plus évoluées pour nous nourrir tout en restant dans ce métaverse ?
Vous allez loin, là.
Oui. Bah, pour moi, c'est... Ouais. Effectivement, c'est une vision ultra, ultra futuriste. Pour l'instant, on n'est pas là et c'est même pas notre souhait que les gens utilisent la réalité virtuelle et les casques plus de 2 heures par semaine. Enfin, je veux dire, ça paraît très absurde. Donc, on peut manger et faire notre vraie vie le reste du temps, mais juste choisir ces moments sur le métaverse.
Oui, parce que on est d'accord que physiquement, plus de 2 heures mettre un casque virtuel, il peut y avoir des répercussions à un moment donné.
Disons qu'elles ne sont pas encore bien documentées, mais
oui.
C'est fort possible. Enfin, il y a des études qui sont menées sur l'inconfort du virtuel sur le long terme. Mais comme c'est pas encore hyper bien documenté, je serais prudente sur l'usage du casque trop longtemps. Et notamment chez les jeunes publics.
En 2018, l'éditeur du jeu Red Dead Redemption 2 a dépensé dans les 400 millions de dollars. C'est plus que certains films de la franchise Marvel. Le site américain Business Insider disait que Meta avait déjà investi 36 milliards de dollars dans ce domaine. C'est plus que la mission Artemis pour retourner sur la Lune. Ça donne une ampleur du phénomène. Est-ce que chez les pros comme vous, il y a une forme de consensus ? L'avenir, c'est le métaverse ? Ou bien, au sein de cette communauté, il y a encore débat et certains n'y croient pas autant que ça ?
Ah, il y a énormément de débats et il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de fragmentation entre, comme je le disais, les acteurs du Web 3 qui sont plutôt sur la partie économique. Mmh. Ils essaient de créer des usages par des plateformes, mais comme ils n'écoutent pas vraiment les utilisateurs, ils construisent des maisons sans demander l'avis des gens, quoi, on va dire. Ensuite, il y a des personnes comme Meta qui essaient de rendre ça public à tout à chacun. Et il y a les créateurs de réalité virtuelle dont on parlait tout à l'heure avec le CNC, ceux qui créent des films d'animation, qui créent des films 360, qui eux ne comprennent pas le métaverse et sont complètement contre. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont un peu leur fragment de savoir-faire qui sont contre. Et nous, chez Vroom, on est un peu transversaux parce qu'on crée de l'événementiel dans plusieurs plateformes. On est en train de créer notre plateforme, donc on a un peu un discours... plus ouvert là-dessus.
On parle souvent, et on a beaucoup de questions apparemment au standard là-dessus, on parle souvent de l'empreinte carbone de tout ce qui touche au numérique. Quid du métaverse ? Ça doit être énorme, l'empreinte carbone du métaverse avec de plus en plus de serveurs pour stocker toutes ces infos.
Complètement, et du coup, on essaye avec le Conseil national de l'AXR, qui est un peu une fédération française des associations, de au moins calculer l'empreinte carbone de chaque composante du métaverse, donc des casques Meta, faire une collaboration avec Meta pour qu'ils nous donnent ces chiffres. Collaboration avec Unity, le moteur de jeu, collaboration avec GitHub, pour qu'au moins qu'on sache notre empreinte carbone quand on va dans le métaverse. Pour l'instant, c'est pareil sur Netflix. Qui sait son empreinte carbone quand il regarde La Casa des Papels ? Personne.
Oh non, mais moi, je ne regarde pas La Casa des Papels, c'est ma solution.
Ah, la tristesse.
Ouais, moi, je suis un yeuve. Pourquoi vous riez, Quentin, lui ?
Est-ce que le Web 3, qui sont pour vous les gros capitalistes, vont vraiment foutre en l'air le métaverse ?
Peut-être pas, peut-être qu'ils ne vont pas gagner, peut-être que c'est Maud qui va gagner.
Et j'espère.
Quentin, soyez un peu optimiste. Ouais. On continue à parler métaverse dans Zoom Zoom Zen avec notre invité Maud Clavier, juste après un titre qui fait du bien, surtout à ceux qui le cherchent activement. Spécial casse dédié à Manon Mariani, voici Mon Amour, Stromae sur France Inter.
Il y a d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis, oui c'était la dernière fois, et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps, oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Non c'est pas ce que tu crois, je sais ça paraît bizarre. Non c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois, c'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas, de toute façon je sais qu'au fond de toi tu les aimes bien les connards.
Mon amour, oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Oui pour toujours.
Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi.
Nouvelle voix.
Journée spéciale sur France Inter.
Journée spéciale Nouvelle Voix sur France Inter. On parle métaverse avec Maude Clavier, directrice générale de Vroom. Et on m'a signalé, durant Stromae, on m'a signalé, j'ai dit tout à l'heure, vous étiez nombreux au standard à nous appeler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. Il n'y a plus, hein. C'est fini. Il n'y a plus de standard. Aujourd'hui, on passe par l'appli, évidemment, l'appli Radio France, qui marche beaucoup mieux que le standard. Alors, certains redoutent que le métaverse, de par son côté non régulé, devienne une zone de non-droit où aucune règle ne s'applique et où chaque décision soit le fait du prince. Moi, ce qui m'inquiète surtout là-dedans, c'est que j'ai l'impression que les gars qui créent le métavers sont en train de tout pomper sur le zoom zoom test, la plus rigolote des zones de non-droit. Alors, mes agneaux, le temps que je retrouve mes petites fiches, parce que vous savez, à mon âge, il faut du temps. Et aujourd'hui, pour notre spécial métaverse, on va évoquer quelques-unes des formidables innovations que nous apportent les nouvelles technologies. L'occasion de méditer la célèbre phrase d'Einstein, il y a deux choses infinies, l'univers et la connerie humaine, mais pour l'univers, j'ai encore un doute. Attention, top! Manon, vous le savez depuis quelque temps, Quentin n'est plus au taquet sur Tinder. Il est au taquet sur Se Loger, en quête d'une première acquisition immobilière dans le secteur fleuri de Montreuil. Ma question est la suivante, question mathématique. Sachant que le prix moyen au mètre carré à Montreuil est d'environ 5000 euros, quelle superficie Quentin pourrait-il acheter dans le monde réel si c'était lui qui avait acheté en 2021 le terrain le plus cher du métaverse? S'il le revendait ce terrain, il pourrait se payer un joli 47 mètres carrés à Montreuil, un imposant 170 mètres carrés à Montreuil, ou carrément un 400 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel et ascenseur intérieur comme chez Cyril Lacarrière.
B, B je dirais.
170 mètres carrés d'après vous, Quentin?
Ça me paraît gros. Non, bah, là c'est, on va aller dans l'excès.
400 mètres carrés.
Bah pourquoi pas.
C'est imaginez ça, si vous avez ça. Acheté ça.
Ah bah si j'ai ça, je suis content.
C'est oui, réponse ça. 400 mètres carrés, le terrain virtuel le plus cher jamais vendu dans le métaverse, coûtait en effet 2 millions de dollars à une filiale de la société spécialisée dans les crypto-monnaies tokens. Alors désolé Quentin, vous n'avez pas investi au bon moment.
Déjà que j'ai pas d'apport.
Non, ça marche pas. Ça marche pas. À noter qu'en fait, vous avez bien fait de ne pas claquer votre PEL en immobilier virtuel puisque le marché s'est effondré cette année avec les crypto-monnaies. Les ventes ont chuté de 97%. Le prix moyen des terrains est passé de 16 000 à 3 000 dollars. Attention, top! Pourquoi en 2022 acheter une paire de baskets quand on peut acheter une paire de baskets virtuelles, très utile pour se balader dans le métaverse? Or, imaginons Manon.
Oui.
L'anniversaire de Quentin approche et vous hésitez. Lui offrir une paire de Nike achetée chez Citadium, comme un vieux boomer, ou lui offrir une paire de Nike en NFT, comme tout digne représentant de la Gen Z. D'après vous, qu'est-ce qui vous coûterait le moins cher finalement? Une paire de baskets que Quentin va pouvoir utiliser au quotidien ou une fausse paire de baskets qui ne sert à rien?
Moins cher.
Faites une réponse articulée en français. Et là, je vous donnerai peut-être le point.
Je dirais la B.
Vous diriez la B. Il n'y avait pas de A et de B. Il y avait deux possibilités. C'est une bonne réponse. Okay. Néanmoins,
merci.
Je vous la donne. Oui,
d'accord.
Nike.
On n'a qu'à jouer au dé la prochaine fois.
A trouvé le moyen de faire encore plus de marge qu'en faisant fabriquer ses pompes au Bangladesh, en ne faisant plus du tout fabriquer ses pompes, mais en les vendant encore plus cher quand même. La Gen Z est ravie.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con.
Imitation de Brassens.
On est con.
Sublime. Dernièrement, la marque a quand même réussi à vendre 600 paires de baskets NFT en 10 minutes pour plus de 3 millions de dollars. Mais le problème, vous le voyez arriver gros comme une maison, c'est qu'avec ces nouvelles Air Max en NFT à 5000 dollars, Quentin devient complètement irrésistible quand il se balade dans les rues du métaverse. Hey, hop, il est comme ça. Les femmes, qui sont déjà, je le rappelle, une sur trois à lui sauter dessus dans le monde réel pendant son micro-trottoir, sont désormais 3 sur 3 à vouloir son petit corps à la pilosité Timothée Chalamienne. Ma question est simple, quoique technique. Peut-on, elle s'adresse à tous les deux cette question, peut-on être agressé sexuellement dans le métaverse?
Malheureusement, oui.
Quentin, vous avez été plus rapide.
Oh non, c'est
oh oui,
faux.
Quentin était
c'est
plus
faux.
Rapide. Et oui, non, mais... oui. Hélas, les plus bas instincts de l'homme se retrouvent dans le métaverse où nombre d'agressions ont déjà été signalées. Heureusement, Mark Zuckerberg est sur le coup. I don't want anyone to touch my Quentin. C'est pourquoi Meta a créé une sorte de ceinture de chasteté virtuelle. Baptisée The Verge, la Verge, je traduirai rapidement Manon. Concrètement, il s'agit de créer, via une barrière virtuelle, un espace personnel circulaire de 1m20 autour de votre avatar, dans lequel nul autre utilisateur ne peut entrer. Si quelqu'un essaie de passer outre cette barrière, la main de votre avatar, de son avatar, disparaît. Jean-Marc Morandini annonce qu'il quitte le métaverse. Enfin, attention, Manon, imaginons. La ceinture de chasteté virtuelle a permis à Quentin de revenir indemne de ses tribulations dans le métaverse. Plus indemne, en tout cas, que la fois où il avait croisé le type au slip jaune. Épisode sinistre de sa carrière journalistique. Eh bien, ça y est, le grand jour est arrivé, c'est son anniversaire. Bougie musicale, cotillon fantasy, interprétation de joyeux anniversaire à la flûte à bec par Cyril Lacarrière. Vous avez vu les choses en grand, rien n'a été laissé au hasard. Et comme il vous restait encore un peu de cash après les Nike NFT, vous avez choisi de lui faire un cadeau en plus. Le tout dernier casque de réalité virtuelle de chez Oculus Rift. Quentin, quelle est alors, mais la question s'adresse aux deux, quelle est votre réaction en déballant votre cadeau ? Waouh, ça déchire ? Waouh, ça tue ? Waouh, c'est cher.
Waouh, ça tue. Non,
c'est
ouais,
cher.
Si.
C'est cher, ça doit être cher déjà.
Bah oui, ça doit être cher.
Bah, les deux marches alors. La B et la C.
La B.
C'est uniquement la réponse B. Ah. Parce qu'on ne connaît pas le prix. C'est un modèle unique. Bravo.
Ça doit penser moins cher.
Mon pauvre Quentin, je vous dis adieu. Mon petit Quentin, je vous présente la dernière lubie de Palmer Lucky, tête pensante d'Oculus, le casque qui tue. Pour de vrai, si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez également dans la vie grâce à trois petits bâtonnets de dynamite positionnés sur le casque. Même dans Black Mirror, ils n'y avaient pas pensé. Victoire, victoire de personne. Ex-aequo, une fois de plus.
On me vole.
Dans ces cas-là, innovation dans le règlement, c'est l'invité qui décide qui a gagné. Maud, à qui vous donnez la victoire ?
Pour que tu te consoles de ta honte journalistique du slip jaune, je t'accorde la victoire.
Oh non !
Oui !
Non !
Victoire par pitié de Quentin, lui ! C'est
magnifique.
Comme
ça que je peux gagner, de toute façon.
Merci beaucoup. Bravo, bravo, Quentin. Alors, il y a deux attitudes qu'on peut adopter face au caractère un peu vertigineux, c'est vrai, du métavers. L'option Cyril Lacarrière, on renonce à comprendre, on abdique et on dit...
De l'enquête et un peu de brouillis.
Ou, deuxième option, on se prend en main, on se dit, c'est compliqué, mais je vais comprendre. Ici, dans Zoom Zoom Zen, on a fait le choix de l'option 2 avec vous, Maud Clavier, spécialiste du métaverse, spécialiste française du métaverse. Alors, la réponse est un peu dans la question. On est comment, question métaverse, en France ?
En France, on est plutôt sur la création de quelques métavers un peu d'entreprise, des trucs chiants pour aller travailler dedans avec des bureaux.
On n'est pas du tout en
France. Sauf que nous, Vroom.
Vous, Vroom, vous êtes
nous, on mène la révolution. Nous, on veut créer un métavers stylé avec des spectacles et on le lance le 10 janvier 2023.
Donc, il y a vous, il y a vraiment que vous, parce que j'ai lu d'autres trucs. J'ai lu Wonderland, une application mobile qui veut ouvrir la voie vers le métavers. Vous avez entendu parler de ça ou pas ?
Non.
Non, ça arrivera en début 2023. L'idée, c'est d'avoir le métavers dans la poche, avec une appli. Visiblement, ça vaut pas grand-chose. J'ai lu Mira aussi, vers la construction d'un métavers français, éthique et respectueux. Alors ça, c'est quoi ?
Alors Mira, j'avais entendu parler d'eux sous leur ancien nom il y a quelques temps, et je les ai revus récemment, mais j'ai pas vu d'image de ce qu'ils font. Mais effectivement, ils ont l'air aussi d'être plus sur des usages, pas de divertissement en fait. Des usages plutôt d'entreprise, de culturel et autres, mais j'en ai pas plus entendu parler que ça. Mais en tout cas, ils sont dans le game.
Mais alors vous, c'est quoi votre vision à vous ? Puisqu'on comprend que le métavers, en fait, il y a autant de métavers que de créateurs dans le métaverse. Vous, c'est quoi ? Comment vous voyez le métaverse ?
Nous, on voit le métaverse en fait comme du spectacle vivant et de la valorisation du spectacle vivant. Et il y a plusieurs aspects. Il y a le fait de produire des spectacles pour des artistes déjà reconnus auprès de leur public, mais aussi de faire émerger des nouveaux talents. On croit beaucoup à ça en donnant des scènes préfabriquées que les gens pourront customiser eux-mêmes en changeant la couleur de la scène, des lumières, des vidéos. Aller sous forme d'avatar, c'est un peu le TikTok virtuel. Ils iront sur scène, ils se produiront gratuitement. Et une fois qu'ils auront un certain nombre d'utilisateurs, ils pourront faire payer leur ticket pour venir les voir virtuellement. Donc on n'achètera toujours pas de terre virtuelle, mais on achètera des spectacles de jeunes talents.
C'est fou.
Quentin, lui.
Vous en avez parlé dans le Zoom Zoom Test, mais c'est sérieux. L'ONG américaine Some of Us a révélé fin mai le témoignage d'une chercheuse qui s'est dite agressée sexuellement dans le métaverse. C'est un utilisateur anonyme sur fond de musical, de rap américain. On a vu son avatar numérique qui se met soudainement à mimer un rapport sexuel. Est-ce qu'on va légiférer là-dessus ? Est-ce que c'est déjà le cas ?
Il y a un peu de réponses. Dans le métavers, on crée des nouvelles civilisations quelque part et on a toujours ce compromis entre la liberté et la sécurité. Plus des sécurités, c'est moins de liberté. Par exemple, la ceinture de chasteté de Horizon est clairement très triste. Donc nous, on veut créer des mesures de sécurité, mais on pense les faire différemment. C'est-à-dire, si quelqu'un vous harcèle, vous pouvez l'invisibiliser, le faire taire.
Okay.
Mais la personne pourra toujours être dans l'expérience et en profiter, sauf si elle est bannée par plusieurs personnes. Et personnellement, pour m'être fait harceler dans les deux mondes, virtuellement, ça fait vachement moins peur. Parce qu'on peut quand même se casser en un clic.
Oui, tout de suite. On peut disparaître.
Et puis quand le gars m'a dit « Est-ce que je peux vous doigter ?», ça m'a fait plus rire qu'autre chose, en fait, virtuellement. Oui. Je dis « Bah, non, en fait,
ça peut traumatiser.
Ça peut traumatiser.
Il y a un traumatisme.
Non, évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même plus facile de s'échapper du métavers quand on est harcelé. En quittant le monde virtuel dans lequel on se trouve, que la rue dans laquelle on est harcelé, quand dans la vraie vie, on l'est. Je veux dire.
Donc c'est pas du viol pour vous ?
Si. Enfin, si, si, bien sûr, c'est grave. Et il faut le bannir, il faut créer des mesures de sécurité, ouais. Et on est sérieux là-dessus. Mais je veux dire, il y a des mesures autres que créer une ceinture de chasteté virtuelle. Il y a d'autres options.
Maud, il y a une question moi, qui m'inquiète avec ce métaverse, d'après ce qu'on se dit depuis le début de l'émission. C'est où on va ? Qui dicte où on va ? C'est-à-dire, quand on voit des jeunes entreprises comme vous, c'est très positif, mettre en valeur le spectacle vivant. Mais sans parler peut-être de Facebook, mais les très grosses entreprises qui du coup, ont déjà une sorte de monopole dans le web normal, qui arrivent là-dessus avec des moyens quasiment illimités, c'est eux qui vont dicter où on va de manière générale. Et ça, c'est pas inquiétant ? Parce que est-ce qu'on va pas justement vers plus de consumérisme ? On parlait tout à l'heure de ces Nike en NFT, c'est tous ces produits en NFT, ces terrains qu'on peut acheter. Est-ce que vous craignez pas que ça soit ça qui gagne finalement, parce qu'il y a des entreprises qui cherchent le profit, qui veulent imposer ça comme modèle pour le métaverse ?
Pour moi, c'est un peu les utilisateurs qui vont choisir, et les utilisateurs, et surtout les jeunes d'aujourd'hui, ont super conscience en fait de ce consumérisme ambiant, et ils en ont marre, même sur les réseaux sociaux, d'avoir de la pub tout le temps, d'avoir des incitations à l'achat tout le temps. Aujourd'hui, une des plateformes qui a le plus de succès sur les spectacles virtuels, c'est Fortnite. C'est un jeu à la base. Donc un jeu vidéo est devenu un havre de paix pour vivre ses spectacles sous forme d'avatar, parce que c'est un abonnement mensuel et c'est tout.
Donc, ça expliquez-nous, parce que franchement, Fortnite, moi je sais que c'est un jeu vidéo, mais je comprends pas en quoi on peut aller dans Fortnite sans jouer à ce jeu vidéo, sans faire l'aventure du jeu vidéo ou jouer en réseau, mais vivre d'autres expériences.
C'est ça, on peut vivre des concerts. Par exemple, il y a Ariana Grande qui a fait un concert, Aya Nakamura qui a fait un concert, Justin Bieber qui a fait un concert. Enfin, il y a pas mal de. Non, Justin Bieber, pardon, c'était une autre plateforme. Mais Aya Nakamura, Ariana Grande et Travis Scott, qui lui a une histoire incroyable, parce que c'est vraiment lui qui a popularisé le spectacle, on va dire, dans le métavers, si on peut parler comme ça. Il a fait un spectacle de 9 minutes, qui lui a rapporté 20 millions d'euros, si je me rappelle bien.
C'est un bon deal, ça.
Un très bon deal, alors qu'en 2 ans de tournée, il n'aura pas eu la même somme dans sa poche. Donc...
ça devient intéressant aussi, extrêmement intéressant, même pour les artistes déjà en vue, quoi.
Et là, en plus, il n'a même pas fait de l'argent parce qu'il a vendu des tickets, mais parce qu'il a vendu des avatars.
Il a vendu des avatars, ça va très 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 loin, le monde bouge, vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, vous êtes nombreux à vous poser la question au standard. Tania Dutel a-t-elle aussi bossé dans le métavers après avoir fait les beaux jours du Buffalo Grill ? La réponse arrive, mais d'abord une autre question, et surtout l'élève, cette fois au sein de la rédaction de Zoom Zoom Zen. On a oublié d'en parler maintenant, mais comment ça s'est passé avec Pedro l'autre soir ? Pedro,
oui, c'est vrai.
Pedro, qu'on salue, et qui, je le rappelle, devait remplacer votre chauffage, selon vos termes assez approximatifs.
Il revient ce soir.
Il revient, donc ça s'est passé.
Avec le fameux chauffage.
Avec le chauffage, qui est en fait un radiateur.
Qu'est-ce qu'il est venu faire alors bien. S'il n'est pas venu hier soir ?
Juste dire bonjour, prendre un café.
Prendre des mesures.
Très bien. Vous êtes Manon dans des conditions optimales pour nous raconter ce qui se passe de beau sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on peut enlever le saxo latino.
Parce
qu'il n'a rien à voir avec votre chronique pour le coup.
C'est vraiment un mauvais scénario coquin là. Ça
ressemble effectivement à un mauvais scénario coquin. Aujourd'hui, vous nous parlez animaux, Manon.
Oui, je sais, Mathieu, que vous adorez regarder des vidéos de chats mignons sur TikTok pour passer une bonne journée. Faut dire que depuis des années, ce genre de contenu animalier se partage beaucoup sur les réseaux, histoire de se mettre de bonne humeur dès le matin. Sauf que dernièrement, la tendance s'est inversée et les vidéos de chats mignons ont laissé place aux vidéos de maltraitance animale qui envahissent les réseaux sociaux. Que ce soit des particuliers qui maltraitent leurs animaux ou des trafiquants d'espèces sauvages qui font de la revente, ce type de contenu est beaucoup plus présent qu'on ne le croit, notamment sur Snapchat et sur Instagram. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les atteintes aux animaux ont augmenté de 30% en 5 ans. Alors un chiffre qui fait froid dans le dos et qui oblige les réseaux sociaux et leurs utilisateurs à être beaucoup plus en alerte sur le sujet. Exemple, en début de mois, un homme a été condamné à 10 mois d'emprisonnement après avoir posté une vidéo de lui sur Snapchat en train de dépecer son chat. Des images totalement horribles, évidemment, qui ont alerté les associations de protection des animaux comme 30 millions d'amis, qui ont tout de suite dénoncé cet acte sur Twitter. Très vite, la police leur a répondu aussi sur Twitter pour dire que l'homme avait été interpellé. Grâce au réseau, donc, La parole sur les maltraitances animales se libère et les associations en profitent aussi pour alerter. C'est le cas de L214 hein, qui milite pour la protection animale. L'association s'est faite connaître en partageant des vidéos sur les pratiques horribles qui se déroulent dans des élevages d'animaux en France. Aujourd'hui, leur compte est suivi par plus de 800 000 personnes sur Facebook et quasiment 300 000 sur Instagram.
Et ces problèmes de maltraitance animale, ils sont maintenant surveillés par une véritable communauté.
C'est exactement ça et donc le nombre d'alertes ne cesse de grimper. Par exemple, la SPA dit avoir reçu plus de 15 000 signalements l'année dernière. Et ça passe aussi par les influenceurs et leur grosse communauté qui s'engagent de plus en plus pour lutter pour la protection des animaux. Impossible, si on parle de ce sujet, de ne pas parler du journaliste Hugo Clément qui en a fait un de ses sujets de prédilection. Il mobilise très souvent sa communauté, on parle quand même d'un million de followers sur Instagram, pour relayer des cas de maltraitance animale. Mais aussi, de plus en plus d'influenceurs qui n'ont rien à voir à l'origine avec cette cause prennent aussi parti. C'est le cas de la youtubeuse Enjoy Phoenix hein, qui a fait plusieurs partenariats avec des associations comme la SPA pour sensibiliser les gens à la cause animale.
Vous savez que moi, la cause animale, c'est quelque chose qui est très important, qui me touche beaucoup. Et d'ores et déjà, dans la barre d'infos, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de leur association si vous avez envie de les soutenir financièrement, de leur faire un don.
Alors, Enjoy Phoenix est suivie par quasiment 6 millions de personnes sur Instagram, 4 millions sur YouTube. Son influence est donc très importante hein, pour les associations qui militent et qui ont besoin de ce genre de porte-parole. Je pourrais aussi citer Romy ou Noolita, deux influenceuses aux millions d'abonnés, qui elles partagent constamment hein, dans leur story des posts concernant la protection des animaux, qui incitent aussi leurs followers à aller en adopter par exemple dans des refuges. Et puis les réseaux eux-mêmes hein, ont pris des dispositions pour lutter contre ces contenus problématiques. C'est le cas d'Instagram qui a mis en place des politiques strictes après des posts polémiques. Je pense par exemple aux stars de télé-réalité qui posaient avec des animaux exotiques dans des zoos.
On ne voit plus ça.
Non, on ne voit plus parce que maintenant quand on recherche un mot-clé en rapport avec de la maltraitance animale ou des animaux en voie de disparition, on tombe directement sur un message d'alerte de l'application qui précise que ce genre de contenu n'est pas autorisé. Alors, pour le moment, évidemment, tout n'est pas encore maîtrisé, mais toutes ces initiatives montrent quand même une vraie mobilisation 2.0 qui n'existait pas avant.
Merci beaucoup Manon Mariani, comme quoi le monde bouge et parfois dans le bon sens. Alors eux, je ne sais pas s'ils font déjà des concerts dans le métavers, certainement plus en tout cas que Michel Sardou. Voici Phoenix, After Midnight sur Inter.
Listen until it's
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Zoom Zoom Zen spécial plongée dans le métavers, c'est bientôt fini. À ce stade de l'émission, les avatars, la blockchain et les NFT n'ont plus de secret pour vous. Ils n'en ont jamais eu. Pour la plus connectée de nos humoristes, bonjour Tania Dutel.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, le métavers, ça fait 50 minutes que vous en parlez, mais Mathieu, est-ce que vous avez compris ce que c'est? Parce qu'en vrai, sur Instagram, vous n'êtes pas hyper connecté. Donc moi, je pense que la nouvelle technologie, c'est pas votre truc. Donc en gros, si à un moment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce que je dis, vous levez le doigt. On va pas se mentir, ça m'arrange si vous le faites pas, parce que après, moi, j'ai Cyril sur le dos qui me dit tu fais trop long, donc vraiment voilà, on va faire comme si vous comprenez. Alors bon, si j'ai bien compris, on peut faire ce qu'on veut sur le métavers, le but c'est de créer une vie de rêve. Est-ce que finalement pour les ados ça ne remplacerait pas un conseiller d'orientation? Non mais parce que tu vois, je vois déjà les gens dire les France Inter ça critique encore. Bon bah pardon, si vous êtes un conseiller d'orientation compétent et bravo à vous, mais moi dans mon lycée c'était pas du tout le cas. Mais tu m'as dit que j'allais jamais avoir mon bac.
Oh non, le salaud.
S'il m'avait dit ça, je vous jure, c'est terrible. Donc voilà, si vous écoutez France Inter et que vous étiez au lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône l'année 2006-2007, j'ai obtenu mon bac S. Et grâce à ça, je peux utiliser le terme sinusoïdal dans mon spectacle. Donc ça m'a vraiment apporté quelque chose. Sinon, quelqu'un ici a déjà son terrain sur le métavers?
Ouais,
non, ok, personne. Bah, dépêchez-vous parce que ça part vite. Une société a acheté 565 mètres carrés pour 2,1 millions d'euros dans Decentraland, dans une plateforme de réalité virtuelle. J'ai calculé, ça fait 3 700 € le mètre carré. Bon, ça me paraît cher pour quelque chose qui n'existe pas. Les prix des terrains ont triplé en un an. Je me dis, bah voilà, c'est tout moi. J'arrive toujours quand c'est trop tard. Je le vois déjà venir, même un truc faux, je vais encore me retrouver locataire. Si j'avais investi dès le départ, je pourrais aujourd'hui être proprio de superbes villas un petit peu partout dans le monde. Je pourrais partir en vacances tout le temps en avion virtuel, j'imagine. Alors oui, j'en vois pas l'intérêt, mais enfin, regardez les avantages. Ta maison, elle est construite en un clic. Parce que moi, tous mes potes qui achètent ou qui font construire des maisons, à chaque fois, j'ai droit les ouvriers, ils sont injoignables, ça fait un an que les travaux n'avancent pas, ils ont mis la baignoire au milieu du salon. Mais arrêtez avec tout ça. Pardon, ça rallonge ma chronique. Sinon, j'ai déjà regardé les retours des utilisateurs des plateformes de réalité virtuelle. Et bon, il est vrai que ça ressemble à la vie réelle, puisqu'une femme raconte qu'une minute après s'être connectée, 4 avatars hommes ont essayé de la toucher, l'ont insultée et lui ont ordonné de se masturber. Une autre s'est fait violer et un autre a frotté son pénis virtuel à l'aide d'une main de femme avatar virtuelle. Donc déjà, c'est rassurant parce que les codes sont les mêmes que dans la vraie vie. Ensuite, plusieurs questions me viennent. Bon, déjà, comment leur avatar était-il habillé? Pourquoi se promenait-elle seule? Et est-ce qu'elles ne disaient pas non en faisant oui avec leur tête d'avatar? Et puis bon, elles n'avaient pas activé la fonction personal boundary, hein, qui est, traduction, c'est limite personnelle, qui empêche les avatars qu'on ne connaît pas de nous approcher à moins d'un mètre. Donc autant dire, et je finirai là-dessus, qu'elle l'avait bien cherché.
Merci beaucoup Tania Dutel. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Vous connaissez vachement bien le métaverse en fait.
Ouais. Hein.
Vous avez vachement bien écouté notre émission.
Oui, et je dis métaverse d'ailleurs Mathieu, dit métaverse.
Bah, moi je dis métaverse parce qu'on m'avait dit qu'il fallait dire métaverse.
Ouais,
c'est
Mathieu.
C'est Cyril Lacarrière qui m'a dit ça, mais en même temps, vu sa date de naissance, comment on dit Maud?
Moi je dis métaverse.
Je dis les deux. C'est important de terminer cette émission en disant que c'était moi qui avais raison. Il faut le rappeler. Maud Clavier, vous étiez notre invitée directrice de Vroom. C'est quoi la prochaine étape du métaverse? Le prochain truc qui va nous concerner tous, pas que les geeks.
Grande question. Bah la création de Vroom. Hein. Non, je plaisante. Le haptique peut-être.
Le
tout
quoi
ce qui est, tout ce qui est haptique, le toucher, les gants, haptique. Les vestes, oh, ça existe déjà, mais c'est expérimental. Enfin, tout ce qui est
gants virtuels, nouvelle émission haptique, c'est un mot pour nous. Haptique. C'est très bien. Merci.
Et je suis ravie de l'expliquer.
Merci Maud Clavier. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Vroom, un studio spécialisé dans l'organisation d'événements sociaux et de spectacles en réalité virtuelle. Merci à toute l'équipe. Manon Mariani et son plaid, Quentin lui et sa bonne humeur de primo excédent, Cyril Lacarrière et sa cassolette de joues de bœuf, Ghislain Fontana était à la réalisation, Lison Berger à la technique. Zoom Zoom Zen revient demain 16h pour zoomer sur un autre phénomène sacrément dans l'air du temps, la cancel culture. En attendant, restez bien sur Inter car voici venir Charline Van Henecker.